Microfilm. Microfilm, bonsoir. Il y a des cinéastes qui tout simplement travaillent, et le travail ça prend du temps, donc il leur arrive de plus du tout être à la une des journaux. Il y a des gens comme Raoul Ruiz, il y a des gens comme Robert Kramer. Robert Kramer est un cinéaste américain qui a vécu pas mal de temps en France. Il a été connu dans la fin des années 60 par une série de films qui ont stupéfié les cinéphiles de l'époque, qui étaient des films qui faisaient une sorte de portrait extrêmement aigu, extrêmement dur, et à peu près le seul portrait, je dirais, sérieux qu'on ait eu de toute une génération de radicaux. Nous, on dit gauchistes, mais il vaut mieux dire radicaux, parce que le mot est plus proche de l'Amérique. Américains de cette génération, celle qui n'a pas voulu aller au Vietnam, mais même celle qui s'est politisée très très durement et qui était au bord du terrorisme. Tout ça est très loin, mais on n'a pas oublié ni The Edge, ni In the Country, ni Ice, et le film qui était un peu le film terminal de cette série-là, qui s'appelait Milestones. Et puis après, il y a une période assez étrange, dont on parlera avec Robert, donc d'exil. C'est très rare qu'un Américain s'exile pour travailler ailleurs, qui l'a mené dans pas mal d'endroits, et quand même assez longtemps en France, où il a fait une autre série de films, À toute allure, le film en vidéo qui est allé à Cannes, le film qui malheureusement n'est pas sorti, qui s'appelait Notre Nazi, drôle de projet, qu'on n'a pas vu malheureusement, un film qui s'appelait Guns, et puis les gens qu'il connaissait bien et qui le tenaient de toute façon pour un grand cinéaste, moi par exemple, se disaient ce qu'il fait toujours intéressant, parce qu'un cinéaste reste un cinéaste, en même temps, c'était du freudisme élémentaire, tôt ou tard, il va bien être obligé de se réaffronter à l'Amérique. C'est venu très très graduellement. D'abord, il y a eu un petit film fait au Portugal qui s'appelait Dog's Kingdom, qui malheureusement n'est pas sorti non plus, que moi je trouvais très bien, qui racontait, ça se passait au Portugal, l'histoire d'un médecin qui était le double de Kramer, donc qui avait à peu près son âge, qui n'était plus un jeune radical échevelé des années 70, mais quelqu'un d'un peu bedonnant, qui donnait un peu comme alcoolique aussi dans le film, qui a un peu suivi le mouvement tiers-mondiste avec la bonne volonté que peuvent avoir les Américains quand ils croient à quelque chose. Et puis qui décidait de... Enfin, il ne décidait pas encore. Son fils venait le voir d'Amérique, il y avait une confrontation père-fils. Et puis on sentait que ce personnage, donc le docteur, le doc, il allait revenir chez lui. Alors, ça aurait pu être un film de plus. Et puis c'est beaucoup plus qu'un film de plus. C'est devenu un projet absolument prométhéen. C'est que Kramer a décidé donc de retourner travailler en Amérique, donc de faire un film là-bas, mais de faire une sorte d'expérience beaucoup plus ample, qui était de profiter de la campagne électorale qui commençait. Donc c'était l'année dernière déjà, aux USA, et de prendre un principe très simple, de suivre la route numéro 1, celle qui va, je crois, de Cape Cod à Miami, qui part carrément du Canada et qui va jusqu'à Miami, et qui traverse comme ça toute une région des États-Unis, et de lancer son personnage, qui est un personnage un peu emblématique, enfin, qui est de la fiction, mais presque pas de la fiction, qui est aussi quelqu'un qui rentre chez lui, qui rencontre des gens, qui a une sorte comme ça d'auto-ironie, qui cherche du boulot, parce qu'il est médecin et que son travail est quand même de soigner les gens, et de suivre ce personnage et de faire donc, une fois de plus, la chose la plus intéressante qui soit au cinéma, de rendre la ligne de démarcation entre fiction et documentaire presque impossible à démêler. Le film s'appelle Route numéro 1 USA. Dans l'état actuel des choses, il dure 4 heures. Moi, j'ai vu un état pas encore définitif du film, ça m'a beaucoup impressionné. C'est un projet très, très, très ambitieux. Bon. Moi, je dirais comme ça, subjectivement, l'Amérique s'était un petit peu éloignée de nous, à tout point de vue, culturel, politique. Elle était moins présente, peut-être parce que l'URSS est revenue à la surface, parce que d'autres coins du monde, tout d'un coup, se mettent à poser des questions à l'Europe, et parce que l'Europe aussi devient quelque chose d'un peu plus concret qu'avant. Et l'Amérique s'éloigne, or on n'est pas habitué à ça. Enfin, nous, des gens comme moi, on est habitué à s'est toujours défini par rapport aux USA et à la culture américaine. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, j'étais très, très ému, je me suis dit, voilà de nouveau quelqu'un qui nous donne de son pays un portrait où on retrouve les raisons qu'il y a quand même toujours au bout du compte, malgré tout, d'aimer l'Amérique. Non, en fait, d'aimer les Américains. Pourquoi ? Parce qu'il a, filmé au long de la route, alors en gardant certains épisodes, certainement en enlevant des tonnes d'eau, il a croisé des gens qui vivent leur vie, qui sont des fois pris dans la campagne électorale, mais pas forcément, où beaucoup sont dans la vie quotidienne et elle est très difficile, donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça, et qui tous manifestent d'une prodigieuse vitalité, mais d'une vitalité un peu désespérée. Et bon, je pense que tu seras d'accord avec moi, Robert, ce sera le point de départ. Je veux dire, je crois que tu as filmé cet énorme bout de route numéro 1 qui traverse les États-Unis avec le regard de quelqu'un qui a vu le tiers-monde, déjà. Toi, tu l'as vu. Et tu as, je dirais que tu l'as un peu retrouvé là-bas. Est-ce que c'est vrai ?
Retrouvé, oui. Oui, oui. C'est... les choses ont beaucoup changé. Donc, bon, la vie, ça a duré suffisamment maintenant pour que ça a beaucoup changé. Ça, c'était la route qui descend de nord au sud. Ça passe à travers tout ce que j'ai connu comme enfant et comme jeune adulte et tout ça. C'est le côté l'est du pays. Et tout ça, c'est ses familles, ses écoles, c'est les routes... Et tout ça, ça a doucement descendu au niveau économique, au niveau psychologique, par rapport aux espoirs des gens et tout. Et oui, on a le sens que... mais on a le sens ici aussi en France. C'est-à-dire que le tiers-monde, bon, le sud avance vers le nord, pas par pas, envahissant toutes les grandes villes, en venant une sorte de mesure de désespoir de planète, des problèmes... absolument monumental à un certain niveau, et qui a donné une certaine douceur à ce que j'ai trouvé. J'étais très surpris. J'ai pensé, j'avais vraiment peur que ça soit un regard amer. Ça fait 10 ans depuis que j'ai tourné là-bas, sauf un tout petit bout de Dog's Kingdom. Et vraiment 10 ans depuis que j'ai passé beaucoup de temps. Et je crois que la dureté de vie et cette qualité extraordinaire de définir des choses comme la guerre, la lutte pour la survivance, et cette manière de penser la vie, ça m'a assez bouleversé, en fait. Et ça a donné toute une couleur au film qui est très différente que ce que j'ai pensé ça va être.
Donc, en fait, tu as commencé par filmer des jeunes bourgeois révoltés, mais un peu en vase clos, puis tu as couru un peu le monde, l'Afrique, le Portugal, puis la France, et tu retournes en Amérique, et finalement tu vois que ce pourquoi se battaient peut-être ces radicaux, tu ne l'avais pas filmé, puisque tu les filmais eux, avec leurs problèmes d'individus, puis tu avais en gros leur âge, et maintenant tu vois ce dont ils parlaient dans leur discours, comme s'il y avait une sorte de contre-champ très tard, et que là, tout d'un coup, tu avais... la patience ou le bon regard pour, disons, filmer un soldat américain noir qui est revenu du Vietnam et que ça a totalement traumatisé, c'est la partie la plus belle du film, ou des gens qui croient des choses étranges dans des sectes, ou une serveuse dans un bar à Miami, c'est son premier jour de travail, ou quelqu'un qui fait des gestes du travail. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ton film, et je crois que c'est une constante alors de tout ce que tu as fait, et ça donne d'ailleurs un statut très... je dirais exceptionnel à ton film, et malheureusement, je dirais minoritaire, puisque c'est quelque chose qui est très très rarement filmé au cinéma, c'est le travail. Je remarque que, bon, tu es un fantastique caméraman, c'est-à-dire qu'il y a un œil, ça se voit tout de suite, mais à un moment, par exemple, à un moment, il y a un très beau plan sur une jeune femme, je crois plutôt hispanique, à Miami, et elle est très belle, et on se dit, bon... c'est un peu décoratif, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas montrer quelqu'un qui est beau au passage? Et puis on se rend compte 2 secondes après que non, elle est en train, si elle est comme ça si figée avec le regard un peu perdu, c'est qu'elle est en train de surveiller quelque chose de très compliqué, qui est une affaire de...
travail sur le pont.
Voilà. Sur un ponton, etc. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est vrai, il filme plutôt les mains que les visages, parce que les mains travaillent toujours. Enfin, le signe qu'il y a du travail, c'est les mains. Et c'est une façon de faire... très logique, très cohérente avec son propos, qui ne crée pas d'effet décoratif ou d'effet exotique, et je sais si pour toi faire un exotisme de l'intérieur était tentant, et qui en même temps explique ce que tu dis sur le fait que les gens ont une vie difficile, mais au lieu de le dire dans le discours, tout d'un coup on commence à le montrer par une infinité de petites notations au cours de la route, comme ça, où on a ce sentiment d'une Amérique très secrètement inquiète, enfin désemparée, et qui en même temps n'a pas oublié de faire les gestes qui la maintiennent en vie, comme par exemple ce soldat noir qui fait un feu, qui fait un feu dans la forêt, qui vit seul, à qui tu demandes de raconter une partie de son expérience, plutôt la fin de la guerre, et qui fait ce feu avec une précision maniaque, car ce feu ne sert à rien, qui coupe des arbres, etc. Et quand on regarde le feu, du coup, comme on a vu la personne le faire, on se dit, il a le droit à ce moment-là de faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire de faire un gros plan du feu. Et le feu, tout d'un coup, éclate dans l'écran. Alors, tu as tourné combien d'heures en tout ?
65, 70.
Donc, tu tournes 70 heures et tu vas en garder 4.
Oui.
Comment se fait le travail de tri, d'élimination ?
Bah, tout a changé à cause de vidéo. En film, je ne savais pas. Parce que tout le problème, c'est de ne pas écrire un scénario dès que le film est tourné. Il n'y a pas un scénario. Il y avait une sorte d'aventure. Pas de trouver un film, mais de trouver ce qu'on pense. Qui on aime et ce qu'on pense. Et pourquoi. Et ça aide d'être la personne qui tourne le film. Je ne sais pas comment on peut faire travailler comme ça si tu ne tournes pas aussi en même temps. Bah, alors, si on était en film, hein, si on montait en film, j'ai l'impression, pour moi, ça devient un problème de bâtir avec ces nouvelles briques qui sont des plans en film. Mais avec la vidéo, c'est possible de traiter tous ces 65 heures et commencer à composer par des grands bouts comme ça. Moi, j'ai fait un premier montage de 12 heures. Et j'avais l'impression, à ce moment-là, je me battais très fort pour 8 fois 30 minutes, chose comme ça, ou même 12 fois 30 minutes, avec un sens de la splendeur du matériel. Et puis, dès que tu es arrivé à ça, c'est très, très facile à passer à 6 heures. Parce que toute l'histoire de film, c'est pas de, en fait, c'est pas de raconter dans le temps réel. C'est pas de, de faire un autre type d'actualité. C'est en fait de trouver ce qui vit, ce qui peut vivre tout seul. Pas pour toujours, mais jusqu'au prochain film, sans appui, sans la patience des gens. Et ça, alors, de 6 heures à 4h30, facile. Et même maintenant, 10 jours avant le mix, je crois qu'on a coupé encore 15 minutes. Mais on arrive à un certain poids, une certaine densité de référence entre des images et tout. À ce moment-là, le film dit « non, je refuse ». Bon, arrive un moment où c'est une question de choix. Toi, tu as parlé une fois de... Bon, c'est un réalisateur qui fait... bon, Bernardo, il fait maintenant version 9 heures de l'Empereur chinois. Bon, très, très... Puis il peut avoir une version 15 minutes et comme ça. Ça, c'est un choix. Et là, ça... ça m'intéresse personnellement pas beaucoup. Je crois qu'il y a une densité où on dit « oui, on peut perdre ce plan, mais je l'aime beaucoup. » Cette séquence, non, on n'a pas fait le film pour un an et demi pour rejeter ce plan, mon point. Mais à part ça, ça arrive à... C'était la même chose. Notre nazi, il y avait 80 heures de rush. Et ça a terminé à 2 heures. C'était une demi-heure plus court que la version que tu as vue en vidéo, quand c'était en film. Ça, c'était correct, ça jouait à cette longueur.
Il y a des cinéastes qui n'aiment pas du tout la vidéo. Toi, au contraire, tu es très content d'être passé par la vidéo.
Je l'adore. En fait, on a une chose maintenant, parce que toute la musique était enregistrée avec une référence à la timecode vidéo. Alors, on a un énorme moniteur posé sur la tête de table. C'est-à-dire, on a l'image de film en bas et une image de vidéo en haut. Et ça m'arrive souvent de continuer d'aimer cette image vidéo bâtard. C'est par rapport à son qualité électrique que je le trouve tellement honnête et morale vis-à-vis un dégoût des musées. Et dès que tu as cette image film en bas, moi, je suis très content qu'on ait un film. C'est pas ça. En même temps, on pouvait pas tourner ce film en vidéo. Mais cette image vidéo, ça me plaît parce que c'est pas permanent. Et ça me fait pas penser que je suis en train de rater quelque chose. Que je suis en train de faire une erreur énorme.
Ça reste léger et provisoire.
Ça reste atomique, électronique. Et pas cette histoire de couper cette matière qui est comme une veste ou une chemise ou quelque chose, tu vois. Et c'est vraiment... par exemple, dès qu'une séquence est montée en film, je trouve que c'est encore très, très lourd d'essayer de repenser cette séquence. C'est un statut de permanence, déjà. En vidéo, ça arrive de faire un travail pendant un jour et puis le regarder tout de suite et dire, oui, je peux garder ça. Je vais mettre ça à côté maintenant. Démarrant. Tu vois, dans cette, et c'est cette, c'était la dernière liberté qui a été refusée, que je n'ai pas trouvée dans le cinéma, qu'on a avec la culture, par exemple.
Mm-hmm. Alors, ce qui peut expliquer ta peur du côté peut-être trop beau, trop léché ou trop musée du film par rapport à la vidéo, c'est tout simplement la façon dont tu montes tes films, qui est... très, très, très original. Bon, à un moment, dans le film, il y a une scène dans un bar, et il y a des gens qui boivent, un peu rednecks, comme ça. Ils sont dans un lieu où, visiblement, il y a eu des fouilles préhistoriques. Ils ont tous des silex. Et ils se montrent les silex, ils ont des pierres taillées. Et je me disais, si j'écrivais un article, voilà la bonne métaphore pour commencer l'article, c'est la métaphore du silex, puisque le montage est conçu comme ça, comme le fait de tailler quelque chose de dur et qui résiste, de le tailler jusqu'à avoir beaucoup, beaucoup de face. Alors, il y a une chose dont on a déjà parlé, qui est la rencontre des gens, plutôt un par un, pas tellement de groupe, plutôt les gens, plutôt les individus, le travail, c'est-à-dire ce qui les occupe, comme on devine de quoi leur temps est fait, il n'y a personne qui est là, errant ou ne faisant rien. Et puis après, il y a un autre niveau. Donc, il y a toujours eu dans tes films, et moi je suis content parce qu'on l'avait vu dans les tout premiers et ça s'est confirmé maintenant, c'est un niveau, moi je dirais, cosmogonique, c'est-à-dire qui a un rapport avec les éléments. Donc il y a un moment où tu tailles dans la scène, très abruptement, et qu'est-ce qu'on a ? On a les éléments, disons, comme John Ford pouvait les filmer, en plus abrupt, peut-être en plus moderne, mais la même sensibilité, c'est-à-dire, oui... Le feu, l'eau, la pierre, la roche, l'arbre, la forêt, le ciel. Mais ça ne vient pas du tout pour donner plus de beauté à la scène ou pour entourer la scène. Ce n'est pas ce qui entoure la scène, c'est ce qui est plutôt contenu dans la scène. C'est-à-dire que dans n'importe quelle scène, il y a un petit bout d'éléments bruts, d'éléments naturels. Il y a encore un petit bout de feu, de ciel, d'eau, de terre, et il y a une façon tout à fait extraordinaire de traverser l'Amérique du nord au sud, mais également de traverser, disons, la société jusqu'à toucher de nouveau les éléments bruts. Alors bon, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose là-dessus, mais quand même, tu montes d'une façon tellement cohérente que tu dois savoir ce que tu fais quand tu fais ça.
Toutes les périodes que j'étais en dehors des États-Unis, j'ai compris certaines choses sur qu'est-ce que ça veut dire un pays, son pays. Tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal de dire chez soi, même pays. Même dans le film, je remarque que tout le monde, finalement, j'ai mis ça sur le off, tu vois, au début, parce qu'on ne dit jamais, moi et Doc, we're going home. On dit toujours, we're going back. On va retourner.
Oui.
Hein. Tellement autre chose. Mais c'est, je crois que c'est à la base d'une terre vierge, que ça, c'est une mythologie qui a existé pour moi. Et que ça, c'était une énorme partie de ma vie. Et c'est une sorte de contact que je n'ai jamais réussi d'avoir depuis que j'étais en dehors de les États-Unis. jamais trouvé une manière d'aller dans la campagne en France. Je veux dire pas aller dans la campagne, je vais à la campagne, mais vraiment aller à la campagne. J'ai jamais compris le système randonnée, tout m'a semblé cerné. Et je crois que ce que j'ai trouvé aussi en retournant, c'est que ça n'existe plus, non plus sur le côté l'Est des États-Unis. Bon, c'est pas de nouvelles pour tout le monde, mais c'est... Et c'est même pas nouvelle pour ma tête, pour ma cervelle. Mm. Mais ça veut dire vraiment encore beaucoup de choses à moi, faire des feux, quand des gens font des feux dans les fermes. Et cette histoire de l'eau, et aussi dans le personnage de Doc, oui, c'est ce que j'adore tourner. Il y a une sorte de rythme qui s'installe sur un tournage qui dure pour 5 mois, et où la seule règle de ce tournage, c'est de ne pas tourner les choses que tu n'intéresses pas. Il ne faut pas tourner des choses pour qu'on peut avoir besoin. On ne fait pas ce type de film. Il y avait certaines règles très simples de jeu avec, en fait, les 4 personnes qui ont fait ce film. Un comédien, qui est ancien copain et collaborateur sur, et qui joue le rôle principal en Ice. Et puis Richard Coppens comme directeur de photographie, moi, la caméra et Olivier Schwab sont. Et la règle de jeu, c'est on n'est pas en train de ramasser des éléments pour faire un bâtiment plus tard, une maison plus tard. Mm. On fait, comme dans un vrai voyage, on fait le camp chaque jour. Et ce qu'on réussit de vivre cette jour-là, c'est ce qu'on a. Ce n'est pas vraiment pour plus tard. Et c'est comment ce moment-là va bien se lier avec le moment après. Il faut que c'est là où toute l'énergie va pour en fait, construire ça. Et il y a des longues périodes où c'était très bien d'être, par exemple, à Bridgeport, dans cette espèce de folie des gens et des besoins, et des, complètement démesurés. Et puis après ça, il y a une sorte de fatigue. Et fatigue avec... c'est pas fatigue, c'est vraiment une sorte de... On peut plus avec la race humaine. On ne peut plus. C'est stupéfiant et c'est stupide. Et on est aussi impliqué, et bon, basta. Mm. Et regardons, passons un jour dans la chose que j'adore là, derrière New York, ce qu'on appelle the Meadowlands. On va le matin, et on va comme on va à la pêche, sauf qu'on a des caméras et le nagra. Mm. Mais pas des gens. C'est des tuyaux, c'est de l'eau qui coule, c'est des brousses, c'est le train distant. On va passer 12 heures là sur le Meadowlands, mais on ne va pas regarder les gens. On va trouver des choses qui nous intéressent là. Et là, on trouve une flaque d'eau qui explose et qui aide beaucoup, à mon avis, dans ce dialogue d'être complète, d'être en entier pour un moment. Et le film était fait avec beaucoup d'alternances. Il y avait un moment, et ça se manifeste beaucoup dans le film, surtout vers la fin, dont tu parles de Enoch, bon, ça c'est le vétéran noir, et puis tout le fuite à Miami, c'est que vraiment les mots étaient terminés. Mm. Et ce qui restait, c'était des images des gens, mais aussi ce qui reste d'une chose qui respire sans nous. Ou pas sans nous, c'est un peu malgré nous.
C'est ça.
Parce que je crois que le récit, c'est beaucoup ça, que toute cette vitalité que tu remarques, et tout, c'est malgré nous-mêmes. Tu vois? Et les gens sont forts malgré la situation. Le flaque d'eau est intéressant malgré les arbres au début, t'étais pas tout au début, parce que tout ça, c'est résumé dans une sorte d'étude sur les coupes d'arbres dans le nord de Maine, qui est une énorme métaphore qui dure pour assez longtemps dans le Maine. C'est un peu des arbres des Indiens et des homards. C'est un peu ça. Mm.
Non, mais ce que tu viens de décrire, c'est certainement ça, un pays. C'est ce qui existe dans le même temps avec et sans ses habitants.
Oui.
C'est le monde comme il est quand on n'est pas là.
Et pourquoi c'est comme ça? C'est, je crois, une sorte de mystère que je comprends rien là-dessus. C'est la même chose, je comprends rien sur cette histoire de nationalité, même de culture. Comment ça se fait que? Comment ça se fait que un langage veut dire ce que ça veut dire? Comment ça se fait que des gens que malgré moi, je commence à sentir cette espèce de familiarité, qui est une sorte de poids en anglais, familiarity. Mm. Tout sent avec une richesse qu'on ne peut pas retrouver et qu'on s'égare de ça à grand risque. Je crois que toute cette question de, par exemple, le travail ici, qui était pour moi un travail indispensable, I mean, par rapport à une sorte d'appui et la liberté de continuer cette sorte de progression extravagante, ça semble quelquefois assez indulgent et ça est nécessaire. Mais de chaque fois essayer de trouver le film, ce n'est pas possible en Amérique. Matériellement pas possible.
Comment tu expliques que tu sois finalement le seul cinéaste américain qui ait eu besoin comme ça de faire un long détour par le vieux monde?
Je crois que c'est certainement lié à des choses assez concrètes, à une vie new-yorkaise et dans une certaine ombre de l'Europe déjà, à travers mes parents. Et je crois que c'est... Il y avait certainement des autres genres de cinéma qui ont sorti de ce milieu, mais je ne suis pas sûr que c'était aussi aisé, très, très méfiant d'une certaine ambition.
Mais je pense à quelqu'un qui, lui, au contraire, se méfiait terriblement de l'Europe, qui vient de mourir, c'est Cassavetes. Mais vous avez été découvert en même temps, à peu près, hein. Ouais, un petit peu plus tôt Cassavetes à cause de Shadows. Ouais. C'est un cinéma très, 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 très loin du tien. En plus, lui était plutôt un grec, même de la deuxième génération. Mm-hmm. Donc, il a refait une tribu grecque.
Non, mais ça, c'est un choix. Là on peut voir ça un peu plus tranquillement maintenant. Mais je crois qu'il y a 10 ans, je n'avais aucune manière de... Mais c'est tous ces gens... ça appartient à ce qu'on disait avant sur cette histoire de jouer soi-même. Le film était l'invitation à chaque personne un peu de jouer eux-mêmes. Mm. Jouer le personnage que... C'est pas moi qui viens en disant « je veux cette côté de toi ». Il y a quelque chose qui m'attire. Alors, tu vois, ce qu'on dit en anglais, « go for it ». You know, go for it. Et où tu vas jouer avec le caméra, on va voir. Bah, il y a énormément de gens qui ont juste vouloir jouer ce personnage américain, cette chose qui est un peu une sorte de chimie entre le cinéma et un vrai vécu. Toute cette bande... Cassavetes et autour sont devenus le développement de cette image. Mm. Ils sont allés beaucoup
Peter Falk. Ils sont allés plus loin, oui.
Oui. Oui. Ils ont créé la nouvelle génération de cette image d'une Amérique qui existe. Mais comme le film, par exemple dans ce film, on ne trouve pas une trace de ça, à mon avis. Et c'est parce que c'est une image des États-Unis qui est très favorable à la représentation et qui joue bien. Tu vois? À deux pas de ça, il y a cette autre option.
Mm-hmm. Parce que ce qui est drôle, et c'est peut-être l'étrangeté de ton cinéma et de ton statut, c'est peut-être ça, c'est que toi, tu es personnellement quelqu'un d'extrêmement pudique et même d'un peu puritain. C'est-à-dire... l'individu,
oui.
En tout cas très pudique, disons.
Assez puritain, finalement, même si je résiste. Mais...
Puritain au sens historique du terme. Oui. On va loin de la foule et on essaie de voir Dieu face à face. C'est ça, les puritains, au départ. Tout le monde l'a oublié, donc pour ça, il faut conquérir le désert. D'où encore l'allusion à John Ford qui s'impose. Donc c'est pas péjoratif. En plus, c'est pas incompatible, le puritanisme avec l'exhibitionnisme. Au contraire, je pense que les deux choses sont tout à fait liées en Amérique. Mais toi, qui es un cinéaste plutôt du silex et de la rétention, tu as quand même, quand tu tournes chez toi, donc aux USA, où tu es né, des acteurs qui se proposent d'eux-mêmes à faire leur numéro, mais pas seulement d'acteurs, leur numéro d'individus. Hein. L'individualisme américain, c'est pas rien. Les gens les plus détruits par la société, qui ont des conditions de vie les plus difficiles, quand ils sont devant une caméra, ils ont une capacité de parler d'eux à la première personne et de se juger eux-mêmes, enfin, même d'avoir une capacité d'humour, par exemple, par rapport à eux, qu'on trouve très peu en Europe, en tout cas pas en France, qui fait que tu emmagasines quand même, toi qui n'aimes pas le théâtre, du théâtre et du jeu. Non.
J'aime de plus en plus le théâtre.
Comme moi, bon. Et je crois que c'est ça qui est si américain, c'est qu'il y a le jeu, J-E-U, qui fait de la pub pour le jeu, J-E. Il y a des conditions de vie très difficiles, mais ça on le sait, c'est l'Amérique. Le rêve américain a toujours été difficile. Et toi, tu essaies, troisième rapport avec John Ford, tu essaies de raconter l'histoire d'un médecin. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est très important. C'est quelqu'un qui veut soigner les gens. Et chez toi, le médecin est un personnage important. Je crois que ton père était médecin. Et l'idée qu'on a charge d'âme, l'idée qu'il faut faire quelque chose, même donc dans ton personnage du docteur, qui est un petit peu un personnage des fois dérisoire, mais qui veut réellement soigner les gens, il se trouve souvent en porte-à-faux avec ce pays qui a cette sorte de jeu automatique, comme ça, des individus. Mais moi, je crois que ça contribue beaucoup à l'équilibre du film et au fait que tu pourrais pas faire ça, par exemple, en Europe. J'essayais de comprendre, par exemple, pourquoi, pour en venir à lui, les films de Cassavetes impressionnent beaucoup ici, surtout les jeunes, parce qu'il est allé très très loin dans l'hystérie du jeu. Et que ça, c'est quelque chose qui manque dans le cinéma français.
Oui.
On peut avoir facilement des numéros d'acteurs, ce qui n'est pas pareil. Il y a moins de numéros d'acteurs dans le cinéma américain. Ça veut dire que les gens sont toujours prêts à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ou même dans leur propre peau, comme si c'était quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas un problème d'acteur à ce moment, ça.
C'est non, c'est un problème de culture.
Oui.
Oui, je crois.
Et c'est surtout ça, parce que les comédiens sont un peu dans le miroir de ça.
Alors, il y a quelque chose dans le film qui, évidemment, revient d'une façon rhapsodique, c'est le Vietnam. Et c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui revient, donc le médecin, mais toi aussi le filmant, mais qui rencontre aussi des gens qui sont revenus aussi. Bon. Il y a quelques années, du Vietnam. Et ça donne au film une dimension, alors qui est elle aussi très, très profondément américaine, c'est-à-dire l'Amérique que l'on quitte, où l'on revient, que l'on n'arrête pas d'explorer, de découvrir, qui ne peut pas être figée. Il n'y a que des flux de population. Il y a les immigrés, il y a les Espagnols. Mais comment tu vois avec le recul cette affaire du Vietnam, vu que c'est la seule guerre importante depuis la Seconde Guerre mondiale qui a été utilisée pour faire des films, c'est-à-dire sur laquelle on a fait, les Américains ont fait beaucoup de films, parce que toutes les autres guerres se passent en général dans le tiers-monde, n'ont pas d'images, ou les images sont faites par la télévision. Donc il y a eu le Vietnam, il y a eu tous ces films sur le Vietnam, et puis maintenant c'est un peu calmé. Toi, tu étais évidemment opposé à la guerre du Vietnam à l'époque, et là il y a de très belles scènes le long de ce grand monument noir où il y a tous les noms des gens qui ont été tués.
Pour toute une génération, la guerre a posé des types de questions quotidiennes qu'à un niveau peut-être moins aigu, qui étaient posées ici pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans la suite. C'est-à-dire beaucoup de questions qui tournent autour de responsabilité, collaboration, refus, importance de l'indépendance de pensée, des actes, des non-actes. Et c'était assez rare. Je crois que des événements comme ça, historiques, c'est pas qu'ils sont précieux, c'est qu'ils marquent des gens qui le vivent comme ça. Si tu n'as pas autre chose à faire, ça vaut la peine de le miner. C'est-à-dire, on peut toujours se couper de ce type de sentiments en disant, bon, là, basta, basta. Où on peut ouvrir ou fermer les portes, ou trouver, par exemple, que ça disparaisse et ça revient. Et je dirais que c'est plutôt ça. Ben, par exemple, là, c'est presque 10 ans que j'habite en dehors des États-Unis, mais je n'ai jamais pensé que j'étais en exil. Quand tu m'introduis comme ça, moi, j'accepte ça maintenant. C'est pas un exil.
On devrait dire travailleur immigré, ce serait mieux.
Non, oui, well, travailleur n'importe quoi, mais c'est surtout cette idée que je n'étais pas là pour une raison. Bon, la guerre a plus ou moins disparu. Je ne suis pas combattant, ça, comme une matière, ça a disparu. Mais dès que j'ai commencé à réapprocher à les États-Unis, ça est revenu comme ça. Dans Doc's Kingdom, c'est déjà dans la distance. Mm. Tu vois. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, a déterminé le trajet de fuite, un peu comme un billard. Et soit ils sont restés dans une certaine opposition, soit ils sont accommodés, soit ils s'étaient tués, soit bon. Tu vois. Et je crois qu'il n'y avait aucune intention. Moi, je dirais qu'il y avait le contraire. Il y avait une décision de ne pas toucher à ça, précisément parce que ça est devenu insupportable. Mais il y a maintenant deux feuilletons en prime time sur la télévision américaine qui est en train de réécrire tout ça.
Oui, il y a un recyclage complet.
Oui. Hein. Insupportable. Alors, l'idée qu'on va entrer en ça, moi, je crois que dans toutes les discussions et tout, on a dit non, bon, Ça, non. Tu as absolument ça. Mais peu à peu, ça s'est imposé dans des manières qui ne sont absolument pas des coïncidences. Et ça s'est imposé à plusieurs niveaux. Ce n'est pas vraiment la guerre en Vietnam. C'est en fait ce que est devenu des actes des années 60 dans la réécriture d'histoire, surtout pendant l'époque Reagan. Bon, on peut découvrir, en entrant dans le musée de soi, qu'on a commencé de penser qu'on était traître, qu'on a joué des rôles de traître, de disloyalty, tous ces types de choses. Qu'on trouve que, malgré tout, pendant qu'on n'était pas en train de défendre le château fort, que toute une sorte de propagande a entré. Les oreilles, vers le nez, n'importe où, et qu'on se trouve en retournant que faut pas toucher ces choses-là parce qu'on va être exposé. On va être comme Jane Fonda, tu vois, invité d'aller sur la télévision pour apologer, pour faire des excuses pour des actes qui étaient absolument corrects et que une sorte de striptease ignoble, tu vois, inimaginable. Bon. Alors, peu à peu, à travers tous ces types de dialogues, et le fait que je vivais à Washington avant, et je suis allé souvent au mur. Et j'étais très, très, très surprise. Et ça a déclenché quelque chose entre moi et Doc, Paul, le vrai Paul. Parce que, bon, lui, il a un passé militaire. Alors, son mépris vient avec plus de justification. Moi, j'ai plutôt une histoire anti-militaire. Alors, je suis un peu plus ambigu. Et peut-être un peu moins épanoui dans mes désirs le plus profond à ce niveau de guerre. Mais ça s'est posé à tous les niveaux. Et le moment quand on a senti ce que j'ai dit avant, que quelque part on vit dans un état de guerre, que ce n'est pas seulement un niveau de violence qui est réel, mais exagéré, mais réel quand même, ou que les métaphores de presse et le langage de guerre. Mais que chaque nouvelle bataille de merde, en fait, de ridicule, est une grande bataille de guerre. Pas juste tout ça, mais dans l'esprit des gens, que soudainement, cette histoire de la guerre en Vietnam devient de plus en plus... Et puis, on a descendu là... Après Washington, ce n'était pas terminé. On n'a rien résolu au mur entre Doc et moi. Alors oui, on va aller à Fort Bragg. On va aller plus loin. On va essayer de trouver qu'est-ce que c'est cette chose qui était si complètement dans notre enfance. Qu'en fait, c'était aussi profond le guerrier que le cowboy, que le baseball player. Hein? On était tous des guerriers et des guerriers. Et puis, de trouver Enoch, c'était aussi un peu coïncidence là-dessus.
Évidemment. L'émission est terminée et on est en train de parler de choses graves, donc c'est pas une chute...
Grave.
Si, quand même. C'est pas une chute olé-olé, mais c'est dans le film, ou plutôt c'est à travers le film, ce qui est mieux. Ce n'est pas le sujet du film, mais c'est là. On n'a pas eu le temps de parler de choses plus concrètes, production, distribution. Enfin, qu'il suffise de dire donc, que le film de Robert Kramer, en ce moment 4 heures, qui s'appelle « Route numéro 1 USA », si c'est pas vu au cinéma ou à la télévision, c'est un scandale. Merci.